Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Les grands titres de l'actualité de ce jeudi 24 mars, Volodymyr Zelensky appelle les citoyens du monde entier à descendre dans la rue et à manifester un mois jour pour jour après le début de l'invasion russe en Ukraine. Joe Biden est arrivé à Bruxelles pour une série de rendez-vous diplomatiques. G7, sommet de l'OTAN, les Occidentaux s'organisent pour accroître les sanctions contre la Russie. Le coronavirus qui repart à la hausse en Australie mais aussi en France. Des scientifiques dénoncent un allègement des restrictions sanitaires trop précoces et enfin, du sport et la retraite surprise de la championne de tennis australienne Ash Barty. Vous nous en parlez dans votre journal des sports, Christophe.
Tout à fait. Allez, on ouvre ce journal avec l'allocution de Volodymyr Zelensky devant les parlementaires français au 28e jour de l'invasion russe.
En visioconférence et durant une vingtaine de minutes, le président ukrainien a exhorté la France à lui venir en aide. « Nous devons agir ensemble », c'est ce qu'il n'a cessé de répéter au cours de son discours, retransmis en direct devant les deux chambres françaises, Assemblée nationale et Sénat. Volodymyr Zelensky qui a également demandé aux entreprises françaises de quitter la Russie, je cite, écoutez.
Les entreprises françaises doivent quitter le marché russe. Renault, Auchan, Leroy Merlin et d'autres doivent cesser d'être les sponsors de la machine de guerre de la Russie. Ils doivent arrêter de financer le meurtre d'enfants et de femmes, de financer les viols. Ils doivent cesser de parrainer les pillages de l'armée russe. Toutes ces entreprises doivent se rappeler que les valeurs valent plus que les profits. Ces profits qui se font sur le sang. Nous devons déjà penser à l'avenir, à la façon dont nous allons vivre après la guerre. Il faut des garanties fortes que la sécurité soit inébranlable, qu'il n'y aura plus de guerre et que les guerres ne seront plus possibles dans ce monde.
Voilà les propos traduits de Volodymyr Zelensky. Alors ces entreprises qui ont été citées, elles ont immédiatement réagi. D'ailleurs, c'est un peu mitigé, Marianne, tout ça.
Juste après le discours du président ukrainien, la maison mère de Leroy Merlin a annoncé maintenir son activité en Russie, malgré la polémique que cela pose, évidemment. En revanche, Renault annonce la suspension immédiate de sa production de son usine de Moscou. De son côté, Total Energy s'est engagé à ne plus acheter de pétrole en Russie d'ici la fin de l'année 2022. Mais le groupe ne renonce pas en revanche au gaz russe. Ce gaz russe qui représente 80% de sa production d'hydrocarbures et dont l'Europe dépend. Patrick Poyané, il est le PDG de Total et il s'est expliqué chez nos confrères de la radio française RTL.
Les deux décisions de bon sens immédiatement, c'était d'arrêter de faire de l'argent sur du pétrole russe des côtés et la deuxième, d'arrêter d'investir en Russie. Ce que nous avons décidé immédiatement. Après, là où on a eu un débat et qu'on continue à avoir avec les gouvernements, c'est notamment, est-ce que oui ou non, je dois continuer à importer du gaz russe? Le gaz est majeur pour l'Europe. Et je lui ai posé la question et il m'a dit, mais non, nous, gouvernement européen, à ce stade, nous n'avons pas décidé de sanctionner le gaz russe parce que nous en avons besoin. Pourquoi voulez-vous que moi, Total Energy, je décide d'arrêter le gaz russe alors que je ne sais pas le remplacer? Je n'en ai pas disponible et les consommateurs européens se trouvent privés d'un gaz. Si nous arrêtons le gaz russe, nous savons que à l'hiver 2023, nous avons un problème. Il faut être clair, rationner l'utilisation du gaz, pas pour les particuliers, mais sans aucun doute pour les industriels en Europe. Par ailleurs, toutes ces décisions, elles ont un impact sur les prix. Il y a un prix, cette guerre. Il faut être clair.
Et c'était Patrick Poyané, donc le président, directeur général, le PDG de Total Energy. D'ailleurs, ce groupe Total Energy qui annonce par ailleurs porter plainte en diffamation contre Yannick Jadot.
Accusé par le candidat écologiste à la présidentielle française de complicité de crimes de guerre en Ukraine pour ses activités en Russie, le patron du groupe, donc Patrick Poyané, que vous venez d'entendre, dénonce des propos insultants pour tous les salariés de l'entreprise. Mais Yannick Jadot, malgré cette réaction, maintient ses accusations.
J'accuse l'entreprise Total Energy d'être complice des crimes de guerre qui sont perpétrés en Ukraine, en ayant parfaitement connaissance des atrocités qui sont menées en Ukraine, en travaillant avec des groupes économiques proches du pouvoir de Poutine, en travaillant avec des oligarques qui sont visés par les sanctions internationales. Le groupe Total ne peut pas s'exonérer de sa responsabilité. Je persiste et signe, et donc Je n'ai aucune difficulté, en vrai, à être attaqué par Total. Nous l'avons toujours été. Les écologistes ont toujours été attaqués par les lobbies parce qu'ils veulent changer le système.
Yannick Jadot qui accuse également Emmanuel Macron de complaisance et estime que c'est à lui, Emmanuel Macron, donc, d'imposer le retrait de Total de Russie.
Ouais, il faut se rappeler qu'il y a une campagne électorale en France. Alors après s'être exprimé face à la France, Volodymyr Zelensky a diffusé une vidéo sur les réseaux sociaux, vidéo dans laquelle il demande aux citoyens du monde entier de descendre dans la rue.
Une vidéo dans laquelle la mise en scène n'est pas anodine du tout, hein, lui-même dehors, sans protection apparente bien sûr. Face caméra, toujours vêtu de son t-shirt kaki en tant que chef de guerre, il appelle à des manifestations mondiales un mois jour pour jour après le début de l'invasion russe, c'était le 24 février.
Come from your offices, your homes, your schools and universities. Come in the name of peace. Come with Ukrainian symbols to support Ukraine, to support freedom, to support life. Come to your squares, your streets. Make yourselves visible and heard. Say that people matter, freedom matters, peace matters, Ukraine matters. From March 24th, in downtowns of your cities. All as one together who want to stop the war.
Et c'était le président ukrainien, donc Volodymyr Zelensky. Un mois de guerre et les Occidentaux qui s'apprêtent à serrer une nouvelle fois la vis à Moscou.
Et pour ce faire, le président Joe Biden a décidé de se rendre lui-même en Europe. Il est arrivé à Bruxelles il y a quelques heures pour une série de réunions diplomatiques. L'objectif est d'aboutir à de nouvelles sanctions contre la Russie. On fait le point avec Guillaume Nodin, correspondant à Washington pour Radio France Internationale.
Ce sont trois sommets, pas moins, qui attendent le président américain, rien que pour la journée de jeudi. D'abord avec l'Alliance Atlantique, puis avec les membres du G7, et enfin en tant qu'invité au Conseil européen. L'objectif de Joe Biden, c'est de réaffirmer l'unité avec ses alliés et partenaires, unité qu'il met en avant depuis le début de la crise et de la guerre en Ukraine. Deux dossiers seront prioritaires lors de cette étape bruxelloise, l'adaptation sur le long terme du dispositif de l'OTAN sur le flanc est de l'Alliance Atlantique, et les sanctions pour s'assurer de leur efficacité, pour qu'elles ne puissent être contournées, et aussi pour les alourdir. Joe Biden va annoncer de nouvelles mesures, notamment contre les parlementaires russes. Il y aura aussi des discussions pour tenter de réduire la dépendance européenne au pétrole et au gaz russe et réduire les achats d'hydrocarbures. Sur ce point, la Maison-Blanche sait que c'est plus facile pour les États-Unis que pour l'Europe, mais veut explorer des solutions. Le reste du voyage conduira ensuite le président vers la Pologne, où il rencontrera des soldats américains stationnés dans le pays. Une rencontre avec le président polonais est également prévue, et nul doute que le thème de l'accueil et l'assistance aux millions de réfugiés qui ont fui l'Ukraine, notamment vers la Pologne, tiendra une place prépondérante.
Et c'était Guillaume Nodin pour RFI. Alors on vient de l'entendre, parmi les grands rendez-vous de la journée à retenir, il y a ce sommet extraordinaire de l'OTAN.
Ce sera cet après-midi, heure européenne, dans la nuit pour nous, ici en Australie. Les dirigeants des pays de l'OTAN, des pays alliés, vont pouvoir parler directement avec le président ukrainien, puisque là encore, Volodymyr Zelensky sera présent par visioconférence. La question maintenant, c'est de savoir ce qu'il va ressortir de ce sommet extraordinaire. Cela fait des semaines que Zelensky demande plus d'aide militaire, et notamment une no-fly zone, une zone d'exclusion aérienne au-dessus de l'Ukraine, mais aussi l'envoi de troupes européennes. L'OTAN refuse toujours catégoriquement. Qu'attendre aujourd'hui ? Juliette Gerbrand fait le point pour RFI.
S'il n'est pas question pour l'OTAN d'envoyer des soldats en Ukraine ni d'établir une zone d'exclusion aérienne au-dessus du pays, comme l'a redit le secrétaire général de l'Alliance, cette dernière devrait annoncer un renforcement de son aide immédiate aux Ukrainiens en matière notamment de cybersécurité et d'équipement de protection face aux menaces radiologiques, nucléaires, biologiques et chimiques. Jens Stoltenberg prend cette dernière menace très au sérieux.
Nous sommes inquiets. Inquiets parce qu'on voit la rhétorique. On voit que la Russie essaye de créer des prétextes pour nous accuser, nous et l'Ukraine, de préparer l'utilisation d'armes chimiques. Et nous sommes inquiets parce que nous savons que la Russie a déjà utilisé des agents chimiques, facilité leur usage en Syrie.
Et la Russie doit cesser d'agiter la menace nucléaire, une rhétorique dangereuse et irresponsable, dénonce Jens Stoltenberg. Les alliés devraient aussi confirmer l'augmentation du nombre de militaires déployés en Europe, une augmentation qui devrait s'inscrire dans la durée.
Nous faisons face à une nouvelle réalité concernant notre sécurité et nous devons donc repenser nos capacités de dissuasion et de défense à plus long terme.
Le nombre de bataillons déployés sur le flanc est de l'Alliance va doubler. Aux quatre présents dans les pays baltes et en Pologne s'ajouteront désormais ceux de la Bulgarie, de la Hongrie, de la Roumanie et de la Slovaquie.
Et c'était Juliette Gerbrand pour RFI. 13h11, vous écoutez le programme en français sur Radio SBS. Alors vous venez de l'entendre, autant G7 ce jeudi, mais il y a également un G20 qui est prévu en novembre. C'est à Jakarta et ça, ça pose déjà problème.
Oui, parce que Vladimir Poutine lui-même pourrait bien y participer. Il a été officiellement invité, annonce faite par l'ambassadrice russe en Indonésie, malgré les appels des autres dirigeants à exclure Moscou. On écoute la réaction de Scott Morrison. Il se dit inquiet. Le premier ministre australien s'est entretenu avec son homologue indonésien, Joko Widodo.
Russia has invited the Ukraine. I mean, this is a violent and aggressive act that shatters the international rule of law. And the idea of sitting around a table with Vladimir Putin, who the United States are already in the position of calling out war crimes in Ukraine, for me, is a step too far.
C'était le Premier ministre australien, vous l'aurez reconnu, Scott Morrison. Et dans ce contexte de guerre froide entre la Russie et l'Union européenne, eh bien Vladimir Poutine tape fort et il pose une sorte d'ultimatum aux fournisseurs européens pour leur futur contrat.
Vladimir Poutine qui vient d'annoncer que la Russie n'acceptera plus de paiements en dollars et en euros pour les livraisons de gaz à l'Union européenne. Il donne une semaine seulement aux autorités russes pour élaborer ce nouveau système de transactions en roubles. On écoute le président russe.
Les États-Unis et l'UE ont fondamentalement manqué à leurs obligations envers la Russie. Et maintenant, tout le monde dans le monde sait, même si tout le monde s'en doutait déjà, que les obligations en dollars et en euros peuvent ne pas être remplies. Il est tout à fait évident qu'à cet égard, cela n'a aucun sens pour nous de livrer nos marchandises à la fois dans l'UE et aux États-Unis et de recevoir un paiement en dollars ou en euros ou dans un certain nombre d'autres devises. Par conséquent, j'ai décidé de mettre en œuvre dans les plus brefs délais un ensemble de mesures visant à transférer les paiements des pays inamicaux pour ce que nous fournissons et nous allons commencer par notre gaz naturel en roubles russes.
Coup de force et de pression ici de la part de Vladimir Poutine. Cette annonce a eu un effet immédiat. Le rouble s'est renforcé face à l'euro et au dollar alors qu'elle s'était totalement écroulée le jour de l'invasion en Ukraine.
Ouais, allez, on referme cette page consacrée à la Russie et à l'Ukraine avec une démission de marque au Kremlin. Un proche de Vladimir Poutine est parti en raison de son opposition à la guerre.
Anatoli Tchobaïs, ancien ministre de l'économie et jusqu'à peu envoyé spécial pour le climat, vous l'avez dit, proche conseiller de Vladimir Poutine. Sa démission est une perte de poids pour le Kremlin. Les explications d'Anissa El-Jabri, RFI.
Une silhouette au col relevé, le visage mangé par une casquette penchée sur un distributeur de billets quelque part à Istanbul. Voilà la fin de carrière d'Anatoli Tchoubaïs. C'est en tout cas ce qu'avance le journal Commerçante qui a publié la photo de cet ex-poids lourd de la politique russe. L'autre cliché qui circule beaucoup date d'il y a presque 30 ans. Le jeune Tchoubaïs, déjà influent, aux côtés d'un inconnu au visage émacié nommé Vladimir Poutine. Ancien ministre des Finances, responsable de l'administration présidentielle sous Boris Yeltsin, la star des privatisations post-soviétiques et de ceux qui ont mis le pied à l'étrier à l'actuel président. Il était jusqu'à ce mercredi encore une des pièces du dispositif du Kremlin, mais une figure détestée de tous ceux pour qui les années 90 sont symboles de libéralisme sauvage et d'envol des oligarques. Dans un pays où le gaz et le pétrole sont une manne essentielle, Anatoli Tchoubaïs était ces dernières années aussi en charge de parler développement durable. Rien n'a filtré sur les raisons de son départ. Le porte-parole du Kremlin s'est contenté d'un laconisme. Il a démissionné, parti, pas parti du pays, c'est son affaire personnelle. Fin de citation.
Allez, dans le reste de l'actualité, on va parler de l'épidémie du coronavirus.
Une épidémie qui repart à la hausse, notamment ici en Australie. Le nombre de cas positifs augmente, mais le nombre de décès enregistrés liés au Covid-19 reste pour le moment stable. Pour vous donner une idée des chiffres, le Victoria, par exemple, dénombre plus de 10 000 nouveaux cas ces dernières 24 heures et 11 décès. 244 personnes sont toujours hospitalisées. Et plus au nord, en Nouvelle-Galles du Sud, 8 personnes ont perdu la vie en une journée. L'État enregistre près de 25 000 cas, 1180 patients sont à l'hôpital.
Et la reconnaissance vient un peu être vue également en France.
Après une période d'accalmie, l'Hexagone se rapproche à nouveau des 100 000 cas quotidiens. La France, qui pourtant a allégé de beaucoup ses restrictions sanitaires mi-mars, fin du pass vaccinal et du port du masque obligatoire en lieu clos, sauf dans les transports et les hôpitaux notamment, une hérésie pour nombre de scientifiques pour qui il était encore bien trop tôt. Parmi eux, le professeur Antoine Flao, on l'écoute.
La levée du port du masque obligatoire dans les lieux clos aura eu ou va avoir comme conséquence que des gens vulnérables, des gens non vaccinés ou des gens immunodéprimés ou parfois des gens très âgés qui ont une certaine immunosénescence vont peut-être, à cause de cette levée du port du masque, faire plus facilement des formes graves qui peuvent mener à l'hospitalisation, qui peuvent mener au décès. En fait, on aurait très bien pu conditionner ce type de mesures, de lever des mesures, à des indicateurs sanitaires. Et si on l'avait fait, on n'aurait jamais levé le port du masque en ce moment. C'est toujours difficile de réinstaurer des mesures une fois qu'on les a levées. C'est un peu le problème de lever des mesures, surtout lorsque ça n'est pas basé sur des indicateurs sanitaires, mais sur des dates de calendrier.
Allez, on reste à l'international, direction les États-Unis, où un grand nom de la politique américaine s'est éteint.
Madeleine Albright, chef de la diplomatie entre 1997 et 2001 dans l'administration Clinton, elle est décédée des suites d'un cancer. Une voix passionnée pour la liberté, la démocratie, les droits humains. Sa mort est une perte immense pour le monde à un moment où nous avons le plus besoin des enseignements de sa vie. Voici l'hommage de Bill Clinton. Bill Clinton, ancien président démocrate qui avait fait de Madeleine Albright la première secrétaire d'État américaine. Guillaume Nodin, RFI.
La vie de Madeleine Albright est marquée par la diplomatie. C'est déjà le métier de son père lorsqu'elle voit le jour à Prague en 1937 dans une famille juive convertie au catholicisme pour éviter les persécutions antisémites. En 1948, après la prise de pouvoir communiste, la famille s'exile aux États-Unis. C'est à la fin des années 70 qu'elle s'engage en politique au sein de l'administration Carter. En 1993, au retour des démocrates au pouvoir, Bill Clinton la nomme ambassadrice aux Nations Unies. À ce poste, il lui est reproché d'avoir tardé à intervenir contre le génocide des Tutsis au Rwanda. Elle devient ensuite la première femme chef de la diplomatie américaine et elle est en fonction lorsque débute la guerre au Kosovo, puis l'intervention de l'OTAN sous mandat de l'ONU. Elle fera sa priorité du renversement du président serbe Slobodan Milosevic au nom de la démocratie et des droits humains. À la fin du mandat de Bill Clinton, elle est approchée par le président tchèque Václav Havel pour prendre sa succession. Elle décline et préfère rester aux États-Unis qu'elle appelle la nation indispensable. Elle soutient les candidatures présidentielles d'Hillary Clinton car, disait-elle, il existe une place spéciale en enfer pour les femmes qui n'aident pas les autres femmes.
Allez, coup d'œil météo maintenant à Perth. Il fera 32 degrés aujourd'hui. Adélaïde, il fera 23. Melbourne, 20 degrés. Hobart, 20. Canberra, 22. Sydney, 22. Brisbane, 29. Cairns, c'est là où il faut être, hein, 31 degrés. Et Darwin, 33 degrés.
Le rappel des principaux titres de l'actualité de ce jeudi, Volodymyr Zelensky qui appelle les citoyens du monde entier à manifester dans les rues un mois jour pour jour après le début de l'invasion russe, Joe Biden qui est arrivé à Bruxelles pour une série de rendez-vous diplomatiques et enfin le Covid qui repart à la hausse notamment en Australie et en France, les scientifiques dénoncent un allègement des restrictions trop précoce.
Aimez le programme en français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.